Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Au sommaire de ce 71e numéro de Force 7, la CCI 04 a tenu son assemblée générale à Manosque. Nous entendrons le préfet des Alpes de Haute-Provence et le président Margot. Les premières assises départementales de l'économie sociale et solidaire ont réussi leur pari. La dynamique économique et sociale a trouvé sa vitrine. L'association Cœur Lavande se mobilise pour le Téléthon. Odile Frison a interviewé Jean Tripodi. France Nature Environnement et la ressourcerie de Haute-Provence partagent des objectifs communs. Explication dans ce magazine. Depuis presque 40 ans, le cinématographe de Château-Arnoux est devenu une institution. Il y a bien plus que de simples projections de films. Le reportage de Chris Alessandri pour Force 7. La CCI 04 en assemblée générale.
La réunion annuelle de la Chambre de commerce et d'industrie est toujours un moment fort et instructif. Au-delà de l'aspect statutaire, elle permet de présenter des actions et dynamiques engagées ou à venir. Et en cette période d'incertitude liée à l'inflation, notamment des tarifs de l'énergie, la réunion permet de voir la CCI continuer à monter des projets et compléter son offre territoriale. C'est un indicateur encourageant. L'AGE a été également marquée par deux intervenants extérieurs. Camille Galtier, le maire de Manosque, a évoqué ses objectifs économiques et commerciaux. Nous y reviendrons. Nous reviendrons aussi sur la prestation de Claire Marenco, d'Imatera, qui a présenté des voies d'évolution du rôle des entreprises face notamment au changement climatique. On retiendra de l'intervention de Daniel Margot l'accent sur la formation et les actifs immobiliers et également le recrutement d'un apprenti pour aider les commerçants dans le domaine numérique, sans oublier l'appui encore plus marqué à l'agence de développement, acteur économique et touristique essentiel. Un autre volet plus technique a concerné le fonds de roulement qui a augmenté de 10,82% ou encore les recherches de financement pour pallier aux baisses de dotations dont celle de CCI France, enfin stabilisée après 5 années de chute. Au niveau des inquiétudes, sans surprise, l'inflation, la remontée des taux et les tarifs de l'énergie préoccupent les consulaires qui entendent conseiller les ressortissants au mieux en décryptant le marché de l'énergie. Les difficultés de recrutement et les remboursements des prêts de l'État furent aussi signalées. Enfin, le président Margot a évoqué un développement territorial avec en 2022 l'inauguration du 264 bis à Manosque et l'année prochaine la création d'une antenne de la Chambre à Barcelonnette, une dynamique risquée financièrement mais appréciée et attendue sur le terrain avec un objectif vers les villes sous-préfectures à l'horizon 2024-2025. Je vous propose d'écouter le président de la CCIT 04, mais d'abord le préfet Chapuis qui, avec la directrice des finances publiques, a livré des informations positives sur la situation de l'emploi ou encore les soutiens financiers de l'État à l'activité économique. Marc Chapuis, vous êtes préfet des Alpes de Haute-Provence. C'est votre première participation à l'Assemblée Générale de la CCIT 04. Votre sentiment ?
Alors mon sentiment, d'abord, c'est très important pour le préfet d'être au contact du monde économique et de pouvoir aussi prendre conscience du dynamisme des acteurs économiques. Dans ce département, disons-le, l'économie se porte plutôt bien, elle est diversifiée et on a eu l'occasion de le vérifier aujourd'hui. Les indicateurs sont au vert, que ce soit en termes de chiffres d'activité, en termes d'exportation ou en termes d'emploi, puisque cette année, on constate une baisse de 16% des demandeurs d'emploi et une augmentation de 5% de l'emploi salarié dans les Alpes de Haute-Provence.
Vous avez regretté cependant que les Alpes de Haute-Provence sont absentes et n'émargent pas à France 2030.
C'est vrai pour le moment. Alors France 2030, ça démarre. C'est ce qu'on appelait le plan des investissements d'avenir qui consiste à projeter notre pays en pointe sur un certain nombre de secteurs émergents, que ce soit dans le domaine de la mobilité décarbonée, dans le domaine de l'hydrogène, dans le domaine du nucléaire. L'État a identifié des grands secteurs stratégiques sur lesquels notre économie doit s'orienter par des projets d'innovation, des projets de recherche. Et donc, pour cela, on a besoin de faire connaître les différents appels à projets de France 2030. Et c'est vrai que pour le moment, dans les Alpes-de-Haute-Provence, on a peu de projets, à part un grand projet sur l'hydrogène qui s'appelle e-Green, mais qui n'est pas encore lauréat de France 2030. On y travaille.
Mais vous l'avez dit aussi, l'État met la main à la poche et soutient énormément actuellement.
Alors c'est vrai qu'entre le plan de résilience qui a été voté à la suite du Covid pour relancer l'activité économique, soutenir aussi les entreprises qui ont été très affectées par l'arrêt total de l'économie pendant plusieurs mois et à plusieurs reprises. L'État a multiplié les aides aux entreprises. Et puis c'est vrai qu'avec la crise en Ukraine, aujourd'hui, l'État fait à nouveau des efforts considérables pour contenir l'inflation, contenir la hausse du prix des matières premières et surtout préserver le pouvoir d'achat des Français. Quand le pouvoir d'achat est préservé, derrière l'activité des entreprises également.
Enfin, vous avez évoqué l'éventualité de délestage électrique. 2 heures éventuellement, ça fait un petit peu peur quand même aux entreprises.
C'est vrai qu'on n'a jamais fait de délestage, mais il vaut mieux un délestage de 2 heures en tournant par rapport aux différents usagers qu'un blackout total qu'on a pu connaître dans certains pays lorsque la consommation électrique est supérieure à la capacité de produire de l'électricité. Donc c'est pour éviter un blackout qu'il ne faut absolument pas connaître que le gouvernement, si jamais les températures refroidissent beaucoup et si jamais la consommation électrique est trop importante, le gouvernement sera obligé d'engager cette mesure de délestage. Donc on s'y prépare depuis plusieurs mois. On va informer l'ensemble des usagers, à commencer par bien sûr les particuliers qui ont déjà été informés mais qui le seront plus encore, et puis aussi les entreprises et puis aussi les collectivités. On va informer et se préparer pour limiter au maximum les conséquences négatives que ces 2 heures d'interruption pourraient avoir sur l'ensemble des usagers.
Dernier élément, vous l'avez dit, il y reste une marge de manœuvre importante en ce qui concerne les énergies renouvelables dans notre département.
Alors notre département, il a la particularité d'être très en pointe sur les énergies renouvelables pour la raison que nous avons des grands barrages hydroélectriques, à la fois sur la Durance et sur le Verdon, qui font que nous produisons énormément d'énergie d'origine renouvelable, puisque c'est l'eau qui permet de produire l'énergie. Mais sur le reste, on a encore des bonnes marges de manœuvre, notamment pour produire de l'énergie électrique, puisqu'on est un département très ensoleillé. Donc le déploiement de panneaux photovoltaïques, le déploiement aussi de la géothermie, à nouveau de la petite hydroélectricité. Ce sont des pistes sur lesquelles nous travaillons parce qu'on le sait, il faut décarboner notre économie, il faut apprendre à se passer des hydrocarbures et pour cela, il faudra qu'on augmente encore notre production électrique et avec l'électricité de produire aussi de l'hydrogène. Bref, les pistes sont très nombreuses et c'est vrai que notre département doit conserver son côté pionnier dans la production d'énergie renouvelable. En tout cas, on va y travailler avec l'ensemble des acteurs concernés dans les années qui viennent.
Daniel Margot, président de la CCIT 04, c'est une assemblée générale très dense que vous avez vécu.
Oui, très dense, parce que on avait pour objectif d'expliquer aussi la stratégie CCI France, CCIR et notre propre stratégie. Donc ça fait effectivement du volume, plus les événements statutaires. On ne s'est pas ennuyé.
Et vous avez insisté sur le T de CCIT 04.
Oui, parce que c'est bien beau d'avoir des grands programmes et des grands projets, mais il faut que ça soit possible et réalisable sur nos territoires. Un territoire rural comme le nôtre, 90% des entreprises ont moins de 5 salariés. Donc avoir des grands programmes qui ne se permettraient pas de se développer n'a aucun intérêt. Le but d'une CCIT, c'est de pouvoir porter aux TPE et aux PME des outils leur permettant de progresser.
Et surtout territorialement parlant, c'est-à-dire que vous avez jeté le dévolu peut-être sur les sous-préfectures. Vous avez développé en 2022 264 bis à Manosque. C'est important, c'est une politique volontariste qui vous anime.
La gestion d'équipement est une politique volontariste. À la fin du mandat 2025, on souhaite être dans les sous-préfectures, comme vous l'avez dit, mais aussi dans les plus grandes villes de ce territoire, Oraison, Fort-Calquier. Pourquoi ? Pour être au plus près et être en proximité de nos chefs d'entreprise et de nos clients qui sont les mêmes.
Avec des services de conseil aux entreprises pour les financements, notamment les financements publics, mais aussi ouvrir peut-être des ateliers de coworking, pourquoi pas.
Voilà, alors coworking c'est déjà le cas et on va accélérer, et surtout en termes de financement, et monsieur le préfet l'a rappelé lors de cette AG, il y a énormément d'argent disponible par rapport au plan de relance et les chefs d'entreprise ne savent pas aller le chercher. Nous avons donc créé un poste de chargé de mission à la recherche de ces financements et à l'accompagnement.
Vous avez également évoqué le développement de l'apprentissage, et là c'est l'éco-campus qui est concerné.
Éco-campus et subalternance Provence à Manosque, oui, c'est un fort enjeu pour nos entreprises que d'avoir des gens formés localement. Ce sont des gens qui ont peut-être envie de vivre ici et de travailler ici, il faut les accompagner dans la formation.
Évidemment, il y a l'inquiétude liée aux tarifs de l'énergie et à l'inflation galopante. Comment vous abordez cette période ?
Compliqué, notamment sur les énergies. On a des COEF qui s'emballent. Il faut faire de la pédagogie. Il faut accompagner les entreprises sur les trois totems de l'énergie, à savoir comment acheter, comment consommer et comment produire. Nous allons démultiplier les ateliers pour pouvoir permettre une meilleure information.
Est-ce que vous craignez les délestages d'électricité ?
Oui, monsieur le préfet les a envisagés. Ce qui est important, s'il faut faire des délestages, faisons-les. Ce qui est important, c'est d'être prévenu et de ne pas les subir.
Succès incontestable pour les premières assises de l'ESS.
Lancée par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et la ville de Digne, cette journée, soutenue par des fonds leaders, fera date. Associations, mutuelles et coopératives ont participé à des ateliers collaboratifs et aux tables rondes thématiques auxquelles les stands au Palais des Congrès donnaient un côté salon très convivial. Ces acteurs contribuent à la richesse du territoire et offrent des services là où souvent rien n'existe ou si peu. Ainsi, finances solidaires, défense de l'environnement, services à la personne, actions culturelles, lutte contre les discriminations, couverture santé et pratiques sportives, chacun d'entre nous utilise souvent l'ESS sans en avoir vraiment conscience. Fréquence Mistral, radio associative, était évidemment présent et nous reviendrons bientôt dans une émission spéciale pleine de témoignages, notamment institutionnels, sur ces assises. Un retour en profondeur qui est prévu le mardi 6 décembre à 12h10. Pour l'heure, je vous propose d'écouter la maire de Digne, Patricia Granet-Brunello, qui a encouragé son équipe à aller sur ce terrain. Nous entendrons aussi Laetitia Serena Bidalo, directrice du CIDFF 04, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, doublement récompensée des prix départemental et régional de l'ESS, remis par la Caisse d'épargne et la CRES PACA. Une belle reconnaissance pour des actions utiles au territoire et ses habitantes et habitants. Patricia Granet-Brunello, vous êtes maire de Digne-les-Bains et également présidente de Provence-Alpes Agglomération. Vous vous êtes entièrement mobilisée avec deux de vos élus, notamment Jérôme Martinez et Francis Kuhn, pour ces assises.
Oui, pour ces premières assises de l'économie sociale et solidaire sur Digne-les-Bains, c'est vrai que j'ai deux élus motivés par le sujet et qui ont vraiment porté toute cette organisation avec vraiment ferveur et à juste titre, puisque l'économie sociale et solidaire est vraiment un atout de développement pour nos territoires, l'économie en soi, hein, mais le social, le solidaire a toute sa valeur, encore plus peut-être de valeur dans la ruralité. Et il fallait la valoriser et il fallait créer cette synergie pour que, comme l'économie plus classique, on puisse aussi développer toutes les actions qui en découlent. Et je suis vraiment très fière du travail qu'ils ont fait et du travail que la ville et l'agglomération ont porté à leur côté.
Alors ces assises ont permis également à beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire de se rencontrer et voire de travailler ensemble.
Oui, c'est ça. L'intérêt, c'est aussi de créer des synergies et cette transversalité qui fait que on va pouvoir être plus fort, avoir des idées. Et l'objectif, c'est d'échanger et puis d'aller de l'avant et d'aller plus loin dans ce domaine.
Et puis on va conclure aussi avec le prix de l'économie sociale et solidaire, aussi bien départemental que régional, qui a été donné à un organisme que vous connaissez fort bien. C'est le Centre d'information du droit des femmes et des familles, le CIDFF 04.
Oui, c'est vraiment un juste retour des choses. Et il faut les féliciter parce que, d'abord, c'est une équipe super dynamique, super active, vraiment qui s'implique dans des sujets très, très compliqués. Et vraiment avec beaucoup de professionnalisme, de dynamisme, de volonté. Et elle mérite, l'équipe, toute l'équipe du CIDFF méritait vraiment ces récompenses.
Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour l'année prochaine ?
Ah oui, très volontiers, j'espère. Il faut, on continue, on persévère.
Laetitia Serena Bidalo, directrice du CIDFF 04, deux chèques dans la soirée parce que prix de l'économie sociale et solidaire départementale et régionale, je suppose que vous êtes heureuse.
Ah ben, je suis heureuse et fière en fait. Ouais, c'est ça en fait. Je suis fière qu'on vienne récompenser des projets à destination des femmes qui ont été tant invisibles.
Et puis évidemment, ça salue aussi tout votre travail par rapport aux femmes victimes de violences.
Ça salue notre travail et ça salue leur courage, effectivement.
Demain, en fait, normalement, on célèbre la journée de lutte contre les violences conjugales. C'est une journée pour laquelle vous êtes mobilisée ?
C'est une journée pour laquelle on va mener des actions et notamment on va co-animer avec d'autres partenaires un ciné-débat. C'est plutôt des courts-métrages d'ailleurs qu'un ciné-débat au cinématographe à Château-Arnoux. En plus de ça, on organise également une campagne de promotion d'un dispositif qui s'appelle le violentomètre. Donc on donne des sacs à main avec un violentomètre sur ce sac à pain-là. Donc on travaille en partenariat avec la Fédération des boulangers. Pour que chaque baguette qui soit remise pendant cette semaine est un sac à pain avec un violentomètre qui permet de mesurer si on est dans une relation où il y a de la violence.
Est-ce qu'on peut rappeler vos contacts en cas de besoin ?
En cas de besoin, vous pouvez contacter le CIDFF au 04 92 36 08 48. Et si on ne répond pas parce qu'on est fermé ou que c'est trop tard, vous pouvez contacter le 39 19.
L'association Cœur Lavande est au cœur du Téléthon.
Leur enthousiasme et leur motivation sont bien connus. Adine, c'est le 10e Téléthon organisé par Cœur Lavande et cette année, Anaëlle en est la marraine. Jean Tripodi, qui préside Cœur Lavande, donne rendez-vous au public ce week-end avec le lancement des illuminations de la ville de Digne-les-Bains, mais aussi pour les nombreuses animations qui auront lieu au-delà. Reportage Odile Frison.
Jean Tripodi, on va parler du Téléthon avec Cœur Lavande.
Eh bien oui, c'est ça, tout à fait, du Téléthon qui a démarré ce week-end, là le week-end dernier, par une vente de viennoiseries sur barème avec la boulangerie Mamie Gourmande et qui continue réellement ce week-end en espérant que le temps soit avec nous parce que c'est pas gagné.
Pour ce Téléthon, il y a toujours une petite marraine.
Ah oui, toujours Anaëlle qui est notre marraine depuis 2018, qui est une fille extraordinaire, qui a une pêche d'enfer et qui est notre marraine parce qu'elle suit justement, de par sa maladie, des protocoles de l'AFM. Donc ça a tout son sens qu'elle soit marraine puisque l'argent qui est récolté sur le pays dinois, mais voilà, sur la France entière, mais en particulier chez nous, eh ben, on sait qu'il y a une partie qui va pour elle pour financer son protocole de soins. Et c'est normal et tout à fait légitime qu'elle le soit parce que c'est la meilleure porte-parole que nous, en même temps, voilà, elle sait de quoi elle parle, donc c'est important pour nous qu'elle soit marraine chaque année.
Alors Jean Tripodi, vendredi 2 décembre, c'est le lancement du Téléthon.
Alors c'est le lancement du Téléthon, je suis très heureux parce que cette année, avec la ville de Digne, qui est partenaire du Téléthon depuis 2013, on a enfin réussi à faire une conjointe inauguration avec les illuminations et le Téléthon. Parce que nous, on le faisait toujours le lendemain matin et on a trouvé intéressant de cumuler tout ça pour éviter de démultiplier les choses et puis pour montrer une visibilité aussi, parce que la ville de Digne, comme elle est partenaire, elle était normal, c'était normal qu'elle soit associée. Donc on lance les illuminations, enfin la ville lance les illuminations, parce que c'est son... C'est à eux de le faire et pas à nous, même si l'année dernière on l'avait fait nous parce qu'il y avait pas de, il y avait une délégation. Et puis on va lancer le Téléthon derrière, juste après, derrière les illuminations, pour qu'il y ait une synergie, pour que les gens puissent venir nous retrouver pour partager ce week-end de fête.
Alors ce même vendredi soir, donc un concert.
Alors le concert de l'Orphéon Lavande, effectivement, qui est un partenaire depuis de longues dates, je crois que ça doit être de 2015, a souhaité mettre son talent au service du handicap, de la maladie, de la solidarité. Et je remercie Agnès Philippe et toute son équipe pour ce concert qui a lieu à titre exceptionnel à la salle Abbé Ferraud, puisque vous savez que la salle a été refaite et qu'elle n'est plus dédiée à ce genre de manifestation. Mais je remercie Bernard Pierry, l'adjoint à l'animation, et aux élus d'avoir accepté, d'avoir fait voilà, une exception pour cette manifestation.
Et samedi soir?
Ah, samedi, c'est la plus grosse journée pour nous, avec le point phare qui est les Presque au Point, spectacle donc des 15 et 21h, les Presque au Point qui sont là depuis plus de 20 ans. C'est le plus ancien partenaire du Téléthon, le Presque au Point.
Et oui, chaque année, ils ne font que le spectacle du Téléthon. Ouais, ouais. Tout un travail de mise en scène, de répétition, un an de travail pour...
Pour juste deux représentations, trois ouais, exactement, parce que l'hôpital de Digne les a sollicités pour faire... de refaire le spectacle pour l'hôpital psy. Donc voilà, ça fait 3 ou 4, mais voilà, ils n'en font pas plus. Et c'est vraiment super. Donc il faut juste se rappeler que ce n'est plus au Centre culturel, mais au Palais des Congrès. Voilà, le changement de lieu. Donc voilà, pas se tromper, quoi, ne pas aller à René Char. Et vous trouverez Porte Close, certainement.
Mais il y a encore
plein de choses. Il y a plein de choses. Ah ben, le samedi matin, le samedi, on est toute la journée sur le marché. Le matin et l'après-midi, on reste sur la place Général de Gaulle. On a la Batouque qui va, à partir de 14h15, faire des animations dans les rues. On a l'école du sous-sol qui va faire une flash mob où tuto est sur nos réseaux sociaux. Il faut juste s'entraîner et refaire ce que les profs vont faire le samedi après-midi pour et s'habiller de toutes les couleurs, puisque le thème du Téléthon, c'est la couleur. Il y a les Funkies qui vont faire un petit spectacle juste après. On a le Babington, on a la piscine. On a, si je ne sais plus, j'espère que j'oublie personne, mais on a donc les Presque au Point aussi. On a Pizza à l'heure, qui est donc une société de pizza qui se trouve à la zone Saint-Christophe, juste à côté de Planète Médicale, où ils ont un distributeur de pizza. Ils vont venir eux-mêmes bénévolement faire des pizzas sur place le samedi, et vous pourrez commander votre pizza, et c'est tout au profit du Téléthon. Donc voilà, il y a une association des musulmans aussi qui seront là, qui feront des gâteaux marocains. Il y a Domitis, qui est notre nouveau partenaire aussi, qui vont le samedi après-midi faire des animations. Ils vendent de la viennoiserie jusqu'à dimanche, et puis ils font partie de Belote. Voilà, qui est notre nouveau partenaire, qui n'est pas le partenaire du Téléthon nouveau, parce qu'ils sont partenaires de métier du Téléthon, mais à Digne-les-Bains, c'est la première fois, et on est très heureux que le directeur et son animatrice aient rejoint l'équipe. Et puis le dimanche, on sera sur la fête de l'Anne-Gris. Il y a un vide-grenier, donc il reste encore quelques places, il y a des gens qui veulent venir vendre leurs jouets ou leurs bibelots au profit du Téléthon. Il y a encore des places, il suffit de nous contacter. Et puis voilà, on est sur la fête de l'Anne-Gris le dimanche, et puis... Le 18, ça continue pour la SPTT Rock Swing avec Marie-Hélène Feld et toute son équipe. Et puis, on termine cette année le Téléthon les 14 et 15 janvier, parce qu'on n'avait pas le choix pour disponibilité de Palais des Congrès. Et donc, on fait un grand week-end avec un spectacle de l'École du Sous-Sol et de Laura Touna le samedi, et le dimanche, un repas cabaret, toujours au profit du Téléthon. Donc, on étale un peu plus cette année. On démarre l'année en clôturant le Téléthon, on démarre l'année en fête, en tout cas.
Voilà, et puis ce week-end, donc, il y a aussi, pour les amateurs de voitures de collection...
Ah oui, mon Dieu, ça, j'ai oublié mon ami.
Ça, c'est quand même... j'imagine que ça a un certain succès.
Ça a un très, très grand succès. Alain est un ami depuis longtemps. Et je suis heureusement que vous m'avez sauvé la vie, Odile, parce que je l'avais oublié complètement. Bon, cela dit, je fais tout par cœur, donc forcément, ouais, à un moment donné, on peut oublier. Et Alain, c'est un ami, c'est un passionné de voitures, et on aura à peu près une quinzaine de voitures sur la place Général de Gaulle. Et les gens pourront monter dedans et faire des tours, voilà, pour la petite somme de 5 euros. N'hésitez
pas. En copilote, pas en pilote, quand même.
En copilote, effectivement. Ouais, je ne pense pas que les propriétaires laissent leur voiture facilement. Mais ouais, ouais, le club Anconage, c'est super qu'ils viennent là. Ils ont eu du grand succès sur les vendredis dinois. Et on les avait pris l'année dernière, et puis ils sont partenaires. Lorsque j'ai fait venir, dans le cadre de la fête de la lavande à Barème, lorsque je m'en occupais, quand j'ai fait venir Miss France en 2008, ils étaient là. Ils avaient apporté tout un staff de voitures pour la mise. Donc c'était chouette. C'est une longue histoire avec Alain Et je suis très content qu'ils reviennent sur Digne après quelques années d'absence.
Et puis alors, le record de la plus grande écharpe.
Eh bien oui, on va essayer de le battre. Alors je ne sais pas si on le fera réellement dimanche en fonction du temps, mais en tout cas, au pire des cas, on le fera sur le week-end du 14 et 15 janvier. Mais en tout cas, je remercie le club des Gavots, toutes les tricoteuses. Il y a des gens de Marseille qui nous envoyaient aussi des pelotes de laine. On avait déjà fait ça en 2016. Et on s'est dit, tiens, allez, on va essayer de battre le record. Donc du coup, voilà, on verra bien. Et puis il y a aussi une fabrication de sacs de l'atelier de petits objets avec l'atelier partagé dont on a fait un partenariat cette année. Et on vendra tout ça au profit du Téléthon ce week-end. C'est super parce qu'il y a de belles synergies. Il y a beaucoup d'associations qui se mobilisent autour de cette cause-là. On espère l'année prochaine un peu plus de sport. Voilà, on y travaille pour que les associations sportives puissent aussi contribuer à leur niveau à cet élan de générosité et de solidarité.
Un point sur les concerts, donc on a vu le premier concert qui aura lieu avec Orphéon.
Orphéon Lavande, ensuite il y a les Presque au Point, ensuite le 5 décembre on a l'ensemble le concert vocal Solaria qui reprend sa chapelle de prédilection après presque 7 années d'arrêt. Le nouveau curé qui est arrivé a donné son accord et je l'en remercie. Chapelle du Saint-Esprit, voilà, ça se faisait là avant. Et puis après, on a à l'église des Sieilles le 8 décembre la Claire Fontaine qui, elle aussi, avec le cœur de l'Olivier, on fait pas mal de concerts à nos profits, donc ils reviennent là à l'église des Sieilles, c'est super.
Dixième
Téléthon qu'on organise, voilà, c'est pas le dixième Téléthon, c'est le 36e je crois, ou 35, mais nous, ça fait 10 ans qu'on l'organise en tant que voilà, tête de gondole, on va dire. Et c'est un plaisir pour nous parce que c'est de belles rencontres. Quand on rencontre les gens de l'AFM Téléthon, les chercheurs, on a rencontré France Télé et toute l'équipe de Paris quand en 2020 ils sont venus. C'est vraiment des gens super dont on se pensent inaccessibles et qui sont très accessibles et qui ont le cœur sur la main eux aussi. Et c'est de belles rencontres. Donc c'est pour nous, c'est toujours motivant d'aller sur ces manifestations-là et d'organiser tout ça parce que c'est du travail, mais c'est aussi de la satisfaction derrière.
Et oui, vous êtes une équipe nombreuse de bénévoles ?
Oui, on est pas mal. Après, c'est vrai que c'est difficile de tenir dans le temps parce que voilà, il y a des bénévoles qui viennent un peu par-ci, un peu par-là, tout ça. Mais oui, on a un vivier voilà, de 40-50 personnes. Il y en a qui viennent que sur le Téléthon, il y en a qui viennent que sur les journées. On continue à chercher des bénévoles. Donc, si il y a des gens qui veulent nous rejoindre avec plaisir parce que le quotidien, on manque de bénévoles sur le quotidien aussi. Donc, l'appel est lancé.
Partenariat pertinent entre FNE 04 et Ressourcerie.
Au départ, deux structures différentes. D'une part, l'antenne basalpine de France Nature Environnement, dont les missions sont la protection de la nature et de l'environnement, et de l'autre, la Ressourcerie de Haute-Provence qui gère un chantier d'insertion et une boutique de vente de produits recyclés. Et c'est le cuir et les fourrures qui les ont rapprochés, comme l'explique dans un instant le directeur de la Ressourcerie. Sur le pays manosquin, l'équipe de Sainte-Tulle fournit un travail unique et utile. Outre les apports volontaires de dons divers à son entrepôt, la RHP collecte aussi 25 tonnes de textiles par mois dans ses îlots de tri. Autant d'objets, meubles ou vêtements qui ne partent pas en décharge ou à l'incinération. Un autre travail commence alors, tri, nettoyage, voire réparation pour proposer ses dons à la vente en boutique, réduction des déchets et recyclage pour des ventes à bas prix, c'est le cœur de métier des 60 salariés sur les trois sites de la RHP dans son chantier d'insertion. Des primo-arrivants, des accidentés de la vie ou encore des personnes en rupture avec le monde du travail qui retrouvent dans ces postes une utilité et une reconnaissance. Avec un encadrement d'une quinzaine de personnes, la Ressourcerie est une association importante sur le 04, en plus d'être une filière de réutilisation vertueuse des biens ou équipements voués à la mise en déchetterie. De quoi interpeller France Nature Environnement, qui a organisé une visite de la Ressourcerie de Haute-Provence dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, avec un accent sur les textiles et nos modes de consommation. À l'issue de cette visite, j'ai interviewé le directeur de la Ressourcerie, Jean-Luc Galli, ainsi qu'Amélie Bruchère et Kelilia Aïtaoudia pour la FNE 04, elles représentaient leur association aux côtés notamment de Janine Brochier, administratrice. Jean-Luc Galli, vous dirigez l'association Porte-Accueil qui gère le chantier d'insertion ici à la Ressourcerie de Haute-Provence.
Oui, tout à fait. Plus précisément, Porte-Accueil a un mandat de gestion qui lui a été délégué par le conseil d'administration de RHP pour gérer la Ressourcerie de Haute-Provence, effectivement.
Quel est le rôle de cette Ressourcerie ?
Voilà deux rôles principaux, là, deux objets principaux dans ces statuts. C'est l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire l'insertion professionnelle des personnes qui sont momentanément, en tout cas, éloignées de l'emploi. Et son deuxième objet, c'est un objet lié à l'environnement et à la revalorisation des déchets. C'est-à-dire que la partie environnement est le support d'activité de l'insertion professionnelle.
Beaucoup de personnes vous amènent des meubles, des vêtements, des chaussures, etc. Mais aussi, il y a des conteneurs, donc c'est considérable ce qui vous arrive sur la zone de la DLV en tout cas.
Oui, alors c'est vrai qu'on en est amené à gérer les flux. On a à peu près 15 000 dons par an dans les trois ressourceries qui doivent être triés pour soit être revalorisés dans les boutiques, ce qu'on souhaite le plus, et soit réorientés vers des éco-organismes. Quand ces objets ne sont pas valorisables en boutique, ils sont réorientés vers des éco-organismes qui les recyclent. Par exemple, des meubles qui sont recyclés pour faire des matières, des pelés, ce genre de choses.
Avec ici des tarifs à la vente qui sont particulièrement bas.
Les prix sont particulièrement bas, mais c'est même quelquefois un petit peu trop bas, parce qu'il faudrait à terme que l'objet d'occasion soit un peu plus valorisé. Mais effectivement, si on veut faire des bonnes affaires, il faut venir à la ressourcerie, parce que les prix sont bas, oui.
Et vous vous adressez bien sûr à un public particulier, aussi bien au niveau de la clientèle qu'au niveau des salariés, notamment sur le chantier d'insertion.
C'est totalement différent. Pour ce qui concerne la clientèle, elle est très variée. On a des gens avec un fort pouvoir d'achat qui viennent ici parce que c'est intéressant. D'abord, il y a une sorte d'addiction qui est à la consommation en ressourcerie parce que les objets changent tous les jours. Nous n'avons que des objets uniques. Alors, il n'y a aucune autre boutique qui propose ça. On a des objets uniques et qui changent tous les jours. Donc, c'est vachement excitant, en fait. Donc, on a des gens qui viennent parce que c'est intéressant, parce que c'est excitant, parce qu'ils peuvent faire des affaires. Et il y a des gens qui viennent parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs, notamment pour se meubler, pour s'équiper leur cuisine ou s'habiller, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat très bas. Donc on a un spectre assez élargi de profils de clients.
Spectre élargi, mais des locaux plutôt rétrécis. Et vous avez des envies d'agrandissement et vous avez un projet que vous menez avec la DLVA.
Ben, tout à fait. Malgré l'importance du bâtiment dans lequel on travaille actuellement, puisqu'on a à peu près 1000 mètres carrés, ce qui n'est pas anodin par rapport à d'autres ressourceries, on manque d'espace. On manque d'espace parce qu'on a beaucoup de flux à gérer. On s'empêche de faire des activités de revalorisation type sablage, upcycling, réparation, parce qu'on manque d'espace et on en est contraint, limité à la gestion des flux, comme je l'expliquais précédemment. Effectivement, nous avons un projet de participation, un partenariat avec la DLVA, qui va construire un énorme pôle de revalorisation sur le territoire. Pôle de revalorisation, donc, qui comprendra une déchetterie et un département revalorisation qui sera la ressourcerie. Donc, ce qu'on espère, c'est d'abord, on aura plus d'espace. Je pense que le foncier nous coûtera moins cher que ce qui coûte là où nous sommes actuellement, qui est un problème économique pour la structure. Et en plus, ça nous permettra d'employer plus de personnes et de faire plus de revalorisation dans le cadre d'ateliers de réparation, d'upcycling de meubles. Donc on sera plus efficace. On revalorisera plus de déchets et la DLVA aura moins de déchets à gérer, ce qui lui permettra peut-être de faire des économies.
Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Tulle parce que vous avez lancé une opération, et que c'est une nouveauté, avec France Nature Environnement.
On travaille depuis peu de temps avec France Nature Environnement. C'est assez récent et ça nous fait regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que c'est une structure extrêmement intéressante avec des gens très impliqués et compétents, très pointus sur les domaines auxquels ils s'intéressent. On a été amené à travailler avec eux parce que nous avons fait le constat ici que nous vendions, on nous donnait des fourrures, des vêtements qui étaient faits à base de fourrures animales. Et donc c'est très déplaisant, mais on se disait que c'était encore plus bête de les jeter. Donc on ne voulait pas jeter ces fourrures, donc nous les vendons. Et on a souhaité que le produit de la vente de ces fourrures soit reversé à des associations qui s'occupent de la cause animale. Ben, on a cherché pas mal. On ne voulait pas passer par la SPA parce que, bon, même s'ils auraient été très contents qu'on leur donne le produit de ces ventes, ben, on pense qu'il y a d'autres structures aussi qui peuvent être aidées. Si on n'avait pas trouvé, on aurait fini par donner à la SPA. Mais là, à l'occasion d'une rencontre fortuite avec France Nature Environnement, on a compris qu'ils avaient une action sur la réintégration du loup. Et donc, on a pensé que c'était très bien de financer ça. On a fait un don de, je crois, 1300 euros il y a à peu près un mois, qu'ils ont pu valoriser grâce à leurs mécènes. La somme a été doublée par leurs mécènes, donc ça leur a fait un apport d'à peu près 2600 euros. Et ça nous a permis de commencer à travailler ensemble, d'où leur présence aujourd'hui. Ils sont venus discuter de la problématique du textile. Je pense que ça va nous enrichir. Le partenariat avec France Nature Environnement va donner encore plus de sens à ce qu'on fait.
Amélie Bruchère, vous représentez France Nature Environnement. On peut rappeler les missions de votre association ?
France Nature Environnement, c'est une association qui est une fédération d'associations environnementales sur le territoire. Elle fait partie de la fédération, il y a une FN04 sur les Alpes de Haute-Provence, mais il y a aussi régionale, en PACA et au national. Et on a des associations adhérentes qui toutes travaillent sur la thématique de l'environnement. Les thématiques sont très très vastes. Aujourd'hui, on a parlé des déchets, mais il y a aussi les déchets, la biodiversité, l'urbanisme, tout ce qui touche à l'environnement.
On peut dire que vous êtes dans un vecteur qui est en plein développement ?
Tout à fait, en plein développement parce qu'il y a des besoins, mais aussi un intérêt qui se manifeste de plus en plus, que ce soit des particuliers, d'un point de vue élu, politique locale. Il y a vraiment un besoin et un intérêt sur cette thématique.
Vous êtes un interlocuteur particulier par rapport aux institutions ?
Oui, on peut être un interlocuteur pour les conseillers, par exemple sur des politiques à mettre en œuvre. Avec la ressourcerie, on avait déjà travaillé sur des programmes pour des communautés de communes pour qu'elles réduisent leurs déchets. Donc leur faire des propositions concrètes, comme on a le lien avec le terrain, pour qu'elles puissent mettre en œuvre ces actions, notamment sur la thématique des déchets.
Cette visite justement à Sainte-Tulle, c'était sur quel thème ?
C'était sur la thématique du textile, parce que cette année, la Semaine européenne de la réduction des déchets a pour thématique le textile, qui est très important dans la production de déchets. Et l'objectif de cette visite, c'était de sensibiliser sur la quantité de textiles qui sont produits en France et donc jetés, et aussi sur comment les réduire. Donc on a mis en place un petit atelier pour, par exemple, expérimenter comment faire de l'emballage cadeau avec du textile qu'on aurait pu utiliser à la maison.
Vous avez également bénéficié d'un coup de pouce de la ressourcerie dernièrement par rapport à des ventes de vêtements venant d'animaux.
Tout à fait, parce que la ressourcerie estime que les vêtements de fourrure sont un peu problématiques dans le sens où les animaux vivent dans des conditions difficiles pour produire des fourrures. Et ce serait encore plus dommage de jeter ces vêtements parce qu'ils sont produits, donc ils sont sur place. Autant réutiliser tous les vêtements qui sont déjà en circulation au lieu d'en produire des nouveaux. Et suite à ce don, nous mettons en œuvre un programme de protection de la faune sauvage et notamment en lien avec le loup.
Donc c'est une manière de se rattraper en quelque sorte. À vos côtés, Kelilia Aitoudia, vous êtes stagiaire vous-même à FNE. Quel est votre rôle ?
Donc moi je suis stagiaire à France Nature Environnement sur un projet qui s'appelle Sentinelle de la Nature. Donc c'est une application qui permet de recenser, qui permet aux gens d'alerter quand ils sont témoins des atteintes à l'environnement, que ce soit des décharges sauvages ou la coupe de bois, etc. Et je suis en charge de développer un petit peu ce projet au niveau du département du 04.
Vous avez choisi donc de travailler dans l'environnement ?
Tout à fait, ce stage est dans le cadre d'une formation de reconversion professionnelle. Car j'ai toujours été convaincue par les thématiques environnementales et j'ai décidé d'en faire mon métier et de vraiment me concentrer là-dessus pour apporter au maximum et pour mettre la main dans la pâte, comme on dit, et faire le maximum dans la lutte contre le changement climatique, la protection de l'environnement, etc.
Château Arnoux, l'atout cinéma avec le cinématographe.
Pour l'équipe du cinématographe de Château Arnoux, le ciné est une aventure qui se poursuit depuis plus de 37 ans et qui a su faire face aux périodes de confinement en gardant le contact et la passion du métier. En matière de films tournés par an, la France continue de faire exception et enregistre chaque semaine plus d'une douzaine de titres qui trouvent leur chemin à l'affiche des salles. Dans le complexe cinématographique de Château Arnoux, le regard est tourné vers l'avenir et les actions ne manquent pas pour maintenir le rythme. Au menu, rencontres à thème, invités prestigieux, conférences débats, ciné-goûtés ou bien encore avant-première, c'est tout un esprit d'échange qui définit l'identité de la structure jarlandine. Cela va bien au-delà des simples projections. Anaïs, de l'équipe du cinématographe, répond aux questions de Chris Alessandri.
Anaïs, simplement pour parler un tout petit peu de l'esprit même du cinématographe ici à Château-Arnoux, comment le définir avec toute cette équipe qui est derrière le cinématographe ?
Alors, l'esprit du cinématographe, c'est le même quand même depuis 37 ans, depuis qu'il a été créé. Et c'est de faire une programmation qu'on appelle généraliste, c'est-à-dire qu'il y en est pour tout le monde. Donc à la fois, on a des films, des blockbusters, des comédies familiales, etc. Et à la fois, on a quand même une identité forte sur les films à réessayer, et notamment sur le jeune public. On a les trois labels à réessayer, qui comportent aussi le patrimoine et le jeune public. On fait quand même un travail toute l'année avec des ciné-goûtés, des ciné-petit-déj, des choses comme ça, notamment avec le Centre socio-culturel La Marelle. En fait, notre identité, c'est aussi ça, de travailler avec les associations locales, territoriales, pour monter des événements assez régulièrement.
J'ai l'impression qu'il y a vraiment derrière cette équipe une envie de non seulement s'investir, mais également un travail d'investigation pour rechercher ce qui va être peut-être à la portée, ce qui va être intéressant, ce qui va plaire, ce qui va faire réfléchir.
Oui, alors en fait, avant le Covid, parce que là, le rythme a quand même vachement changé, mais avant le Covid, il sortait à peu près 20 films par semaine. Alors on les voit pas tous, mais du coup ça représente quand même un nombre considérable sur l'année. Je pense que quand même on doit voir, nous, pour faire la programmation, entre 8 et 10 films par semaine. Et donc, sans que ce soit forcément un travail de recherche, mais de fait, on est amené à voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc après, quand même, c'est ce qui fait l'identité du lieu. On choisit les films qu'on a envie de défendre, soit parce que la forme techniquement, ou au niveau vraiment du cinéma, de la mise en scène, des choses comme ça, c'est quelque chose que formellement on a envie de défendre, soit parce qu'on a envie de défendre le fond. Et voilà, et c'est pour ça qu'on va avoir aussi beaucoup de films, tout est politique, de films sociaux aussi, qui sont pas forcément toujours des drames d'ailleurs, mais voilà, des films d'auteur ou des films qui vont parler d'une thématique en particulier, parce qu'on a envie de s'en emparer. C'est pour ça qu'on va monter aussi des ciné-débats, des choses comme ça, parce que c'est à ça que sert le cinéma ou l'art en général.
Le cinématographe, c'est vraiment la façon également de communiquer. Il y a vraiment cette relation. Il y a le public qui attend, en fait, et qui vous est fidèle depuis X années.
Oui, depuis 37 ans, on a quand même une base de public solide, d'abonnés. On l'a vu dernièrement avec les rendez-vous d'automne. Notre dernière édition là, du mois d'octobre, nous a montré quand même et nous a donné un peu de baume au cœur que notre public était encore là. C'est vrai que, vous le savez, on en parle beaucoup, mais la culture a quand même pris un gros, gros coup avec la crise Covid. Et avec les 300 jours de fermeture, c'est quand même énorme. On a vu qu'il y a un changement d'habitude qui s'est opéré. Et nous, on le constate quand même localement. Au niveau national, il y a quand même une baisse de fréquentation qui est conséquente pour les cinémas, mais pas que, on le voit aussi dans le spectacle vivant, le théâtre, les concerts, etc. On a quand même perdu une base de public et on se rend compte que localement, on a des abonnés qui ne viennent plus ou plus aussi souvent qu'avant, voilà, qui ont quand même perdu la fréquence. Donc c'est vrai que les rendez-vous d'automne, on a quand même vu que quand on fait des événements et qu'on fait venir des équipes, etc., les gens sont encore là. Donc ça donne quand même du baume au cœur. On ne travaille pas pour rien, mais c'est vrai que on fait toujours autant d'événements qu'avant, en fait. Et malgré tout, il y a quand même des gens. C'est ça qui fait venir les gens aussi, mais pas autant qu'avant.
Justement, vous réservez de bonnes petites surprises. Il y a des tas d'événements là qui arrivent. Est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil sur la programmation, sur ce qui, allez, vous, Anaïs, vous interpelle ?
Ben oui, bien sûr, avec plaisir. On a beaucoup de choses qui arrivent avant Avatar, parce qu'on a quand même le gros blockbuster Avatar qui arrive le 14 décembre. Et du coup, avant ça, on a pas mal d'événements. On a le 2 décembre, en partenariat avec la médiathèque, on accueille un BD-concert. Et c'est gratuit et c'est dans le cadre du mois de la BD qui a été initié par le réseau de lecture publique de P2A. Samedi 3 décembre, on fête les 37 ans du cinématographe, avec une soirée gratuite, un film surprise et un petit verre de l'amitié, un petit encas après le film, pour un moment un peu festif et convivial, parce qu'on en a bien besoin après ces 2 ans de crise Covid et de passe sanitaire et de restrictions en tout genre. Lundi 5 et lundi 12 décembre, on fait une retransmission de La Puce à l'oreille de la Comédie française en différé. Lundi 5 décembre au soir, à l'occasion du 5e anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, on retransmet aussi son Bercy 92. C'est une opération qui a lieu un peu partout en France, dans plein de cinémas, le concert de Bercy 92. Le mardi 6 décembre, on fait un Unipop avec Philippe Manœuvre en visioconférence autour du film Bohemian Rhapsody. Et le jeudi 8, on fait un ciné-petit-déj avec notre partenaire, le Centre socio-culturel La Marelle, avec le nouveau film de Kore-eda qui avait remporté la palme il y a quelques années pour Une affaire de famille et qui signe maintenant Les bonnes étoiles.
Et puis on peut le rappeler aussi, le cinématographe, c'est un confort, c'est tout un contexte qui est vraiment très agréable au niveau du son, au niveau de l'image.
Alors justement, c'est très bien qu'on en parle, c'est un confort et en effet, on s'était équipée du numérique et de la 3D à l'occasion de la sortie d'Avatar il y a 13 ans. Et pour la sortie du second volet d'Avatar, on a décidé d'équiper notre grande salle d'un projecteur laser. Donc pour une meilleure qualité d'image et notamment pour la 3D. Donc on a l'équipement qui est prévu là début décembre. Donc on sera paré pour le gros blockbuster de la fin de l'année.
Pour se renseigner quand on a envie d'avoir des informations sur les films, sur les séances, sur la projection.
Alors il y a notre site internet lecinematographe.fr, il y a notre application mobile aussi où il y a toutes les infos et où on peut directement acheter les billets.
C'est presque la fin de ce magazine et avant de se quitter, François, quelques brèves.
Oui, quelques brèves parce que il se passe beaucoup de choses ce week-end, notamment, vous le savez certainement, c'est le week-end du Téléthon avec beaucoup d'animations sur tout le territoire et sur tout notre pays. Bien sûr, participez et bien sûr, n'hésitez pas à faire des dons pour le Téléthon afin que la recherche avance par rapport à ces maladies génétiques. Donc, n'hésitez pas à participer aux actions du Téléthon et à donner pour ces actions. À Manosque, il y a une opération, tout autre chose, c'est un salon qui concerne les artisans et les métiers de l'artisanat. C'est à la salle Osco Manosco avec une entrée libre les 3 et 4 décembre de 10h à 19h. C'est le salon Art et Gourmandise, c'est pas le premier qui se passe avec des ventes, des dégustations, démonstrations, plein de choses et surtout beaucoup d'artisans magnifiques qui vous présenteront par exemple des fabrications de sacs et accessoires, de bijoux, de couture de vêtements, de la pyrogravure, décoration en bois et galets. Et pour les gourmands, alors là aussi la liste est longue, miel, safran, conserverie, liqueur, bière, alcool à base de pommes, des biscuits, des sirops, huile d'olive, épicerie fine, nougat, macarons et calissons, ça c'est pour fêter Noël bien sûr. Et donc ce week-end à Manosque, c'est le Salon des Arts et Gourmandises, les 3 et 4 décembre de 10h à 19h, l'entrée est entièrement libre. Tout autre chose, c'est au Mai dans les Alpes de Haute-Provence, samedi 3 décembre à 17h30, le film Secret Toxique, le film d'Andy Battentier, qui est projeté, et c'est à propos de la lutte contre les pesticides. Les poisons sont autorisés. C'est une enquête sur l'évaluation des pesticides, projection qui est organisée par France Nature Environnement, Éco-Raison, Terre de Lune, AMAP, l'AMAP des pénitents, Stop Pesticides et React Transnational. C'est au cinéma des Mai, et c'est donc à 17h30, samedi 3 décembre. Secret toxique, c'est un sujet d'actualité, notamment pour nos amis agriculteurs, mais aussi pour tous les consommateurs que nous sommes. Enfin, une bonne nouvelle aussi, en ce début d'hiver, presque, c'est tout simplement l'ouverture de la station de ski, et ça se passe à Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes. Donc les premières neiges sont là, et les stations vont ouvrir. La première qui ouvre, c'est Montgenèvre. C'est une bonne chose, ça nous permet de saluer nos amis haut-alpins. Voilà, c'est la fin du magazine. Merci Louis pour la régie. À la semaine prochaine.